Merci d'être avec nous, dans tous les cas, sur Osmose Radio. Je vous propose, ça fait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé un conférencier de l'URSSI, l'Université Rose-Croix Internationale, et voici que François Bilieu est avec nous. Bonjour François.
Bonjour.
Alors on est en liaison Skype, hein, donc des fois il peut y avoir des petites coupures, j'avertis à nos auditeurs quand même. Alors François, vous êtes un conférencier, mais vous êtes aussi musicien surtout.
C'est ça, oui, tout à fait. Et surtout au service de la spiritualité, puisque je travaille à l'université, enfin je fais des conférences dans le cadre de l'université Rose-Croix Internationale, dans la section musique, puisqu'il y a beaucoup de sections en fait à l'université Rose-Croix.
Et justement, on voulait parler, enfin vous nous avez proposé de parler de la nature spirituelle de la musique. Alors j'aimerais que vous définissiez, parce que déjà rien que le titre de votre intervention, la nature spirituelle de la musique, pose question. Qu'est-ce qu'on appelle cette nature spirituelle ?
Alors c'est quelque chose qui est merveilleux, qui rejaillit, j'allais dire, entre la science et la spiritualité moderne. C'est qu'en fait, cette notion-là, elle existait depuis, je ne vais pas dire depuis la nuit des temps, mais en tout cas dans les écoles de mystère de l'ancienne Égypte, parmi les philosophes de l'Antiquité, on parlait déjà de cette nature spirituelle, c'est-à-dire de ces vibrations qui permettent d'élever ce qu'on appelle l'âme, hein, pour les spiritualistes, qui permet effectivement de toucher directement l'être humain et puis de l'amener à des, on va dire, des modifications d'état de conscience qui élèvent l'âme vers une spiritualité vraiment pratique dans la vie de tous les jours.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'elle a une essence divine quelque part, la musique ?
Absolument.
C'est ça ?
Alors, c'est vrai qu'en très peu de temps, je ne peux pas tout expliquer, mais on a en fait des écrits de nos philosophes du passé, et notamment des physiciens modernes, qui nous expliquent qu'en fait, à l'origine, vous savez, dans la Bible, on dit que le Verbe créateur est celui qui a permis à l'univers de se manifester. Mmh. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir que les écrits des textes sacrés, bibliques, et d'autres obédiences, bien sûr, et mouvements philosophiques et religieux, eh bien, nous amènent à la conclusion que, en fait, l'univers a été créé par un son primordial. Or, à l'heure actuelle, on est en train de redécouvrir, par la nature, disons, des sons qui sont émis, surtout par les compositeurs, qui nous amène maintenant à des musiques contemplatives, ce qu'on appelle, entre guillemets, les musiques New Age, mais qui sont les musiques qui sont plus orientées vers la méditation, vers l'introspection, on s'aperçoit que quelque part, nous avons une élévation de notre nature de perception de la musique et qui est en concordance avec ce que les compositeurs du passé, alors qu'ils soient baroques, classiques, modernes, et romantique, bien sûr, nous ont amenés dans leur composition. C'est ça qui est extraordinaire.
Bah ce qui est extraordinaire, si je peux me permettre, hein, c'est qu'en fait, il y a combien de notes ? Il y a 7 notes, non, dans la partition, dans la musique ?
C'est
dans
ça,
le solfège. Et avec ça, vous avez vu, le nombre de musiques qu'on peut créer, c'est vraiment impressionnant.
Ah oui.
Là, on est dans quelque chose de vraiment très impressionnant, parce qu'il n'y a que 7 notes, quoi.
La musique, c'est l'art de combiner les sons, c'est la définition académique de la musique. Mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, quand un compositeur écrit une musique, il va enchaîner des sons, des rythmes et des harmonies qui vont transmettre une sorte de langage. On va raconter une histoire par les sons. Mais là, on n'est que sur le plan, j'allais dire, matériel. C'est-à-dire qu'en fait, on a le son qui arrive par nos oreilles physiques. On s'aperçoit que ça déclenche également des émotions qui sont différentes d'un individu à l'autre. Et on s'aperçoit aussi que quelque part, ça déclenche des inspirations, des phénomènes, j'allais dire, un petit peu qui sont du domaine de l'esprit, de la profondeur de l'être humain.
Bah souvent, on a des écrivains qui ont besoin, par exemple, d'avoir un fond musical ou une sélection. Il y a même des écrivains qui mettent leur playlist. J'ai écrit ce livre avec ces musiques qui l'ont inspiré, qui l'ont porté dans son inspiration, dans sa création. On dit aussi, par exemple, que, par exemple, sur certains animaux, les vaches produisent mieux quand on leur met de la musique du Mozart, par exemple. Vous confirmez ce genre de choses, vous ?
Ah mais complètement, oui. D'ailleurs, bien sûr, là on parle du règne animal. Alors les animaux sont extrêmement réceptifs à la musique. On peut pas dire que d'ailleurs qu'il y a une musique qui est plus mauvaise qu'une autre. Ça dépend des animaux, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend de ce que recherche également l'animal. Je le vois, j'ai un chat à la maison. Eh bien, effectivement, ce chat, il est plus ou moins réceptif à certains genres de musique que je peux passer à un moment donné, et je le sens plus à l'aise dans d'autres musiques, mais pas toujours. Donc, on sent qu'il y a une vie intérieure chez les animaux. On sent aussi que cette vie intérieure, elle nous affecte nous aussi. Nous avons notre vie intérieure qui nous amène aussi à rechercher des musiques qui nous apaisent, qui nous permettent aussi d'être dans une dynamique de travail, mais également dans la créativité. Quand j'écris une conférence, par exemple, eh bien, j'ai un style de musique particulier qui me permet de m'aider à changer mon état de conscience. Hein. Voilà, c'est juste ça. C'est une modification d'état de conscience.
On le voit aussi avec la transe. Oui. Je parle dans certaines tribus, avec des chamans, etc. Le rythme, la musique, au bout d'un moment, les personnes entrent en transe, sortent de leur condition naturelle, quoi.
On va dire que c'est une aide, en fait, pour modifier notre état de conscience. On pourrait le faire naturellement en se posant sur une chaise et puis en fermant les yeux et donc de passer dans cette espèce d'état où on est dans une autre vie intérieure. Mais la musique, comme également, par exemple, l'encens ou l'ambiance musicale, la vision d'un beau paysage, peut permettre effectivement de faciliter cette modification d'état de conscience et de partir dans des perceptions plus subtiles.
Alors, spirituellement, donc, ça nous apporte quoi ? Parce que ça nous porte, ça nous permet d'avoir accès à quelques lieux, je sais pas moi comment on appelle ça, enfin des connaissances, ça nous ouvre des portes, des choses comme ça.
Ce qui est beau, en fait, dans la musique, c'est que, bien sûr, elle nous a touchés et elle nous touche. Elle est partout dans notre vie. Hein. Elle imprègne, j'allais dire, presque tout l'univers. Et sur un plan sociétal, eh bien, elle est parfaitement intégrée dans les activités humaines. On s'aperçoit quand même qu'il se passe autre chose. C'est-à-dire que quand on commence à vivre la musique pour des expériences d'intériorisation. Et là, toutes les personnes qui pratiquent le yoga, la sophrologie, les arts martiaux, vont savoir un petit peu de quoi je parle. C'est-à-dire que vraiment, on se pose, on se centre, on s'écoute de l'intérieur. Eh bien, la musique va nous envoyer comme certains messages. Et ça, ces messages, c'est très intéressant parce que même les musiciens modernes, je pense notamment à des chefs d'orchestre, j'ai déjà entendu parler notamment le maître Nagano, qui est un chef d'orchestre très, très connu, eh bien, il dit qu'il y a des codes cachés dans la musique. Et ces codes cachés, eh bien, on ne sait pas, évidemment, les exprimer, ou du moins les penseurs un peu plus cartésien, un peu plus rationaliste, ont du mal à définir ce que sont ces codes cachés. Mais nous, spiritualistes, nous pouvons approcher ces codes en les identifiant comme des messages qui viennent justement des plans divins. La grande information, en fait, spiritualiste qu'on peut donner à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une dualité dans l'univers qui fait que, de la même manière que l'être humain est un être double dans sa nature, je reprends la sixième loi de l'ontologie rosicrucienne qui est très intéressante, qui dit que l'homme est un être double dans sa nature et triple dans sa manifestation. Avec ça, on a pratiquement tout dit, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'âme, le corps, l'interaction entre les deux, on a un corps psychique, et lorsque l'on écoute de la musique, eh bien la musique touche les trois plans en même temps. Physique, avec nos oreilles, sur le plan psychique avec nos émotions et sur le plan spirituel, justement par l'écoute de ces codes cachés qui ne sont pas vraiment conscientisés, mais qui existent et que l'on peut appréhender de plus en plus d'une manière très très fine. Voyez,
c'est très intéressant. C'est j'avais aussi une petite question. Est-ce que vous connaissez les expériences de M. Emoto sur l'eau ?
Oui, sur la mémoire de l'eau, par exemple.
Oui, et on voit. Non, vous savez, il prend de l'eau, il la met, par exemple, dans dans une ambiance avec du Mozart, on va dire, ou alors du hard rock. Et après, il arrive à geler très rapidement les molécules de cette eau, et elles prennent des formes différentes. Et quand on lui fait écouter du Mozart, la forme est très harmonieuse, on dirait une petite étoile, par exemple. Et quand on fait écouter du hard rock ou des choses très très violentes, elle est complètement éclatée, et c'est plus du tout la même. Vous connaissiez ce genre d'études, qu'on appelle ça, d'analyse scientifique?
Oui, effectivement, on s'aperçoit que la structure moléculaire de l'eau, donc, a une mémoire. Alors, les physiciens en parleraient bien mieux que moi. Nous, on sait que, par exemple, lorsque on utilise la musique sur un plan purement thérapeutique, c'est-à-dire thérapeutique dans le sens où ça apporte un bien-être à l'organisme, par exemple pour se décontracter, pour pouvoir, encore une fois, je reprends ce que je disais tout à l'heure pour la créativité, vous voyez, pour modifier quelque chose dans notre comportement, eh bien, le corps enregistre justement ces vibrations de telle sorte que chaque cellule peut en être imprégnée. De la même manière que l'eau, vous savez, on a à peu près 70% d'eau.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Voilà.
Donc, vaut mieux écouter du Mozart quand même, si on veut que nos molécules soient jolies.
Mais je ne porterai pas de jugement de valeur, parce que vous savez, le hard rock, comme d'autres musiques, je dis toujours, quand une musique a été écrite avec une intention positive, vraiment pour pouvoir faire quelque chose de beau dans la création, alors chaque compositeur va utiliser sa technique et son style particulier. Alors Mozart, c'est vrai que par la tradition, je vais dire, c'est vrai que c'est une musique apaisante, harmonieuse surtout, parce que c'est ça, c'est l'harmonie en fait. Oui. Mais il n'y a pas que lui, chez les romantiques on en a, dans la musique sacrée on en a également, Allegri par exemple, on a, et puis dans les romantiques on a Brahms qui était un grand spiritualiste.
Oui, mais là, Emoto, il a pris Mozart comme il aurait pris quelqu'un d'autre, c'est un choix aléatoire un petit peu, voilà. Et puis la musique hard rock, comme vous le précisez, c'est avec des textes très très durs, hein, sur la violence, le suicide, la mort, donc c'est pour ça aussi que c'était très chargé, je crois, voilà. J'avais une autre question à vous poser, que nos auditeurs nous posent souvent et qu'on voit partout en ce moment sur YouTube, dans le bien-être, c'est cette fameuse musique à 432 Hz, je crois, qui serait soi-disant positive. Est-ce que vous êtes au courant de ça, et comment vous l'expliquez, ça?
Alors,
est-ce que vous partagez cette opinion déjà? Parce que c'est peut-être pas vrai du tout.
Ah, mais si, de toute façon, ce qu'il faut voir dans la musique, et c'est ça le problème, en fait, c'est qu'en très peu de temps, on ne peut pas vraiment le développer, mais je vais essayer d'être concis. Là, nous parlons d'une musique avec une fréquence particulière de 432 qui est le « la ». Le la de la gamme, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, le la est réglé à 432. Ça veut dire qu'en fait, un compositeur va écrire ou reprendre un morceau en réglant le la à 432. Ça veut dire quoi concrètement? Nous, à l'heure actuelle, dans la musique, on exécute une musique, je dirais, à 440 Hz. Donc, on baisse la fréquence. Ça donne donc un son comme si on avait réglé un instrument un petit peu plus bas au niveau de l'impression sonore.
D'accord. Alors, 432, mais comment on règle ces fréquences? C'est très étonnant. On ne comprend rien, en fait. On ne sait pas ce que ça veut dire, 432 Hz ou 8000 Hz. Pour nous, c'est de l'hébreu. c'est le musicien qui règle quelque chose, ou c'est très étonnant?
Il y a des personnes qui sont effectivement spécialisées dans l'étude des fréquences et de leur impact sur le corps humain, voire même sur le corps psychique, hein, on peut le dire, qui ont constaté que la fréquence à 432 est une fréquence harmonieuse, notamment parce qu'elle est plus en adéquation avec la résultante, j'allais dire, de fréquence générale de vibration de l'organisme. Le problème, et je dis bien que c'est un problème, c'est que quand on écrit une musique à 432, ça veut dire qu'on va écrire une musique où tous les « la » seront à 432, mais uniquement les « la ». Ça veut dire qu'en fait, si on dit « Ah, ce morceau-là, il est extraordinaire parce qu'il est en adéquation avec le corps humain », oui, mais uniquement sur la fréquence du « la » à 432. Je pense que c'est très important, parce que ça ne retire en rien le mérite et la qualité, je veux dire, de l'œuvre qui a été écrite en 432. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la panacée. Lorsqu'on utilise une fréquence pour un travail particulier, on peut stimuler, par exemple, une glande endocrine ou un centre psychique avec une fréquence particulière. On le fait, par exemple, dans les temples rosicruciens lors du travail, en collectif, par exemple, dans le cadre d'un rituel. On utilise, par exemple, on va prendre l'exemple que tout le monde connaît, le Om, par exemple, qui est qui normalement est un son qui permet, avec la fréquence réglée sur le ré, hein, au-dessous de ce qu'on appelle le do central, permet d'être en harmonie avec l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu, par exemple. C'est utilisé également au bouddhisme. Mais sur le plan psychique, le Om, nous, on l'utilise également pour stimuler la glande pinéale. Voyez.
D'accord.
Mais c'est une fréquence. C'est pas une musique. C'est une fréquence parce que donc, on sait très bien que dès qu'on va passer sur une autre note, eh bien la fréquence sera fausse.
D'accord.
Pourquoi?
Bah une fréquence, c'est-à-dire c'est le son là, un peu comme ça.
Comment vous dites?
Bah c'est un espèce de son qui fait.
C'est ça
la. Ouais voilà. C'est ça la vibration quoi, la fréquence. D'accord.
Je suis pas sûr d'avoir fait le ré, hein.
Mais non, enfin, c'est pour qu'on comprenne, ça. Parce que voilà, la fréquence plutôt que la musique, oui, donc la fréquence. Mais on voit ça aussi chez les chamans, guérisseurs, oui. qui ont souvent des sons comme ça, un peu gutturaux, un peu qui vibrent, en même temps qu'ils font quelque chose, une opération sur une personne ou quoi. Il y a toujours ces sons avec la voix, une espèce de chant un peu indien là. Il y a toujours cette vibration aussi.
Exactement. Vous savez, le fait de chanter, ça permet de... Alors là, on rentre dans un domaine qui est passionnant aussi, qui est l'art du chant. Le chant, on dit que la voix humaine, c'est la dernière manifestation visible qu'utilisaient les plans angéliques pour s'exprimer. C'est assez imagé. Désolé pour les puristes, mais c'est un peu ça. Ça veut dire finalement que lorsque l'on prononce un son, déjà, on lui envoie dans l'intention et dans sa forme une intention sacrée. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas, à la limite, dire n'importe quoi. Parce que la parole, elle est sacrée.
Mais oui.
C'est la dernière émanation, vous voyez, des plans divins. Donc, un chaman, eh bien, effectivement, comme un prêtre, d'ailleurs, dans une église, comme quelqu'un qui pratique la méditation zen, lorsqu'il entonne un son vocal, qu'on appelle, hein, il envoie bien une note qui va permettre de mettre en résonance des choses dans son organisme, soit sur le plan physique, psychique ou spirituel, qui vont l'aider dans le travail qu'il va faire, voyez.
D'accord. C'est pour ça qu'ils ont une drôle de façon de parler des fois. Non. Comme le pape. Un peu. Non, c'est ce que vous voulez dire. C'est une forme de musique aussi, c'est musicalité dans l'expression.
Absolument. Oui, tout à fait. Là, on est dans plusieurs formes en fait d'expression du sacré dans la musique, par exemple sacrée. Vous avez entendu parler des chants grégoriens. Eh bien, les chants grégoriens, c'est un peu de la manière que vous l'avez faite, effectivement. Hein, ce sont des mélopées qui sont là justement pour pouvoir procurer des impacts émotionnels et des impacts techniques au niveau du corps. Pour pouvoir s'élever, pour pouvoir se mettre en prière. C'est une prière chantée, on va dire.
En quelque sorte, pour résumer, donc selon la musique qu'on peut écouter chez soi, on peut aller mieux. Vous pensez que oui?
Bien sûr. Je veux dire que la musique, en fait, c'est une compagne. C'est vraiment la personne qui écoute déjà la musique, elle va avoir un bien-être qui va être évident si elle choisit une musique évidemment qui lui plaît et qui lui touche. Mais la personne qui pratique la musique également, celui qui va ou celle qui va chanter ou qui va jouer d'un instrument, va passer dans une autre dimension également, parce qu'elle va prendre des énergies musicales et les envoyer autour d'elle pour pouvoir exprimer une créativité. Et puis, il y a cette musique qui nous permet d'exprimer en chantant, presque peut-être même dans la prière ou dans certaines invocations, de nous élever encore plus haut, parce que très clairement, la musique, elle a cet aspect physique qu'on connaît, mais elle a un aspect spirituel qui est caché, qui est en elle. Donc, quand vous écoutez de la musique, il faut jamais oublier qu'il y a un code caché derrière. C'est le code que les plans divins nous ont envoyé justement pour pouvoir exprimer du mieux qu'on peut une spiritualité qui est censée, normalement, élever un peu la conscience humaine et l'amener à un meilleur humanisme, à plus de paix et plus d'harmonie.
Alors, comme le fait remarquer Pablo qui fait la régie là, aujourd'hui, ça peut être aussi négatif. On peut se sentir beaucoup plus mal en écoutant certaines musiques.
Oui, alors ce n'est pas forcément du fait de la musique, mais c'est du fait, en fait, de la résonance que la musique va faire dans votre psychisme, parce qu'elle va rappeler eh bien, des souvenirs qui sont peut-être difficiles, des expériences négatives, des choses que vous avez mal vécues. Encore une fois, la musique, c'est pas du bruit. Ça ne doit pas être du bruit à partir du moment où c'est composé avec une intention qui est pure, une intention justement qui est faite pour donner aux autres quelque chose qui est beau, de l'amour, de l'harmonie, du plaisir. C'est ça, normalement, une belle musique. Alors, effectivement, il y a des musiques qui sont plus ou moins en résonance avec l'individu, et il y a des gens qui créent également de la musique pour faire du mal, hein, ça existe, hein, mais ils n'y arriveront pas. Ah, et c'est ça, ça qui est merveilleux, parce que quand on veut faire du mal, eh bien, on veut faire quelque chose avec quelque chose qui n'existe pas, parce que le mal est l'absence du bien. Et c'est ça qui est intéressant dans les lois universelles, le son est une vibration positive et une vibration d'amour. Donc elle ne peut pas et en aucune manière être négative vis-à-vis de quelqu'un. C'est la personne qui va l'utiliser, qui va, elle, se faire du mal en créant des pensées négatives, mais en aucune manière, donc, elle n'affectera un individu qui ne veut pas, bien sûr, être affecté par quelconque vibration négative.
On peut rester imperméable, en quelque sorte,
à ce genre de choses. Donc, ça fait, c'est ce qu'on appelle l'empoisonnement mental.
Oui, mais c'est important de le savoir, parce que ça dépend directement de nos pensées, de ce que nous évoque cette musique. C'est ça, ce que vous me dites. Hein. C'est la pensée créatrice qui peut nous décomposer aussi, quoi, nous-mêmes.
Oui. D'accord. Moi, je suis fondément convaincu que la musique de votre collègue en régie, qui lui crée quelque chose de négatif, il me la passe et probablement que moi ça ne va rien me faire du tout, ou que ça va me créer quelque chose, peut-être même de positif, on ne sait pas. Chaque individu donc réagit en fonction de ce qu'il reçoit. Et de toute façon, on ne peut pas être, et ça je suis formel, on ne peut pas être pollué négativement ni par la musique, ni par les pensées, ni par des paroles. C'est l'individu lui-même qui va gérer en fait ce qu'il reçoit. En fait, c'est comme vous pouvez pas envoyer de l'ombre dans la lumière. Sinon, on est la lumière. Vous voyez ce que D'accord. je veux dire. Par contre, vous pouvez envoyer de la lumière sur quelqu'un. Vous allez l'éblouir et ça va être magnifique. Il va recevoir quelque chose de positif. C'est une loi universelle, ça.
À nous d'être lumineux pour pas prendre trop d'ombre sur la tête, quoi.
C'est beau, est-ce
en que quelque sorte. Dire, c'est très bien, voilà. C'est vous qui me l'inspirez, c'est votre musique qui me l'inspire en quelque sorte. Bon, on est toujours un peu pris par le temps dans ces rendez-vous Skype. On va se dire au revoir, mais n'hésitez pas à revenir parce que je pense qu'on peut développer le sujet sur plusieurs petites émissions.
Ah, mais je suis à votre entière disposition.
Il y a beaucoup de choses à dire, je crois.
C'est une passion pour moi de la partager. Et oui, on a survolé très vite. D'ailleurs, peut-être que j'étais un peu confus dans certaines choses, mais n'hésitez pas donc à faire appel à nous si vous avez besoin, et à moi en particulier. Ce sera vraiment une grande joie de le partager ce moment avec vous.
Bah, je retiens l'invitation. On vous rappelle bientôt et on prendra un prochain rendez-vous pour le mois d'avril, peut-être. François Bilieu, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avec nous dans le cadre de notre partenariat aussi avec l'Université Rose-Croix Internationale pour laquelle vous donnez des conférences, puisque vous êtes conférencier. Hein. On peut vous retrouvez un peu partout en France, des fois, autour de cette thématique de la nature spirituelle de la musique.
Oui, là, sur le site de la Morque, amorque.org, hein, donc vous avez le calendrier des conférences. La prochaine que je vais donner, donc c'est à Arras le mois prochain, enfin, non, c'est au mois de mai, ensuite à Reims. Donc pour les personnes, mais c'est vrai que c'est pas un peu le secteur d'Avignon.
C'est pas grave, des auditeurs nous écoutent de partout, hein. Vous savez qu'on est web, donc il n'y a pas de souci. Donc Reims et Arras.
Arras, tout à fait. D'accord. Mais n'hésitez pas à regarder, parce qu'il y a d'autres conférences aussi passionnantes, sur le plan d'ailleurs de la médecine et autres. Il y a un calendrier axé au public, justement, pour tous les internautes qui souhaitent voir d'autres thèmes. C'est on est quand même 60 conférenciers, donc
il y a des sujets très très intéressants. Alors je me rappelle plus, je crois c'est rose-croix.org, et il y a aussi un site avec Amorque, non, parce que Amorque c'est l'ancien et mystique ordre de la Rose Croix.
C'est ça, précise, hein, pour nos auditeurs. C'est point org.
Oui, c'est rose-croix.org et vous trouverez les informations, les rendez-vous conférences et puis peut-être des vidéos vers d'autres conférences, hein, déjà j'avais remarqué aussi.
Elles existent sur liens. Le site ou sur YouTube aussi, hein, sur la chaîne de la Morque, hein, bien sûr. Oui. Rose Croix sur YouTube et également Facebook. Hein. Oui.
François Bilieu, merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres rendez-vous autour de la nature spirituelle, de la musique. Au revoir.